La face cachée de la lune, un voyage exceptionnel en musique au Théâtre du Rance.
L'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd a créé une véritable onde de choc en 1973, mais à l'époque, les bruitages que l'on entend sur cette œuvre ne pouvaient être réalisés sur scène en concert live. Et c'est précisément ce que parviennent à faire les 9 membres de la compagnie Inouï, emmenés par Thierry Ballas. Un mélange de spectacle et de musique où les musiciens forgent du son de manière analogique, manipulent des synthétiseurs d'époque, font chanter des œuvres d'art aujourd'hui quasiment disparues. Un véritable voyage cosmique avec pour destination la face cachée de la Lune. Grâce à Mario Poncelet, préparez-vous à suivre Thierry Ballas et son équipage dans les airs sur les traces des flamants roses virtuoses, les fameux Pink Floyd.
Je dirige en fait une compagnie qui s'appelle la compagnie Inouï et on a fait notamment ce spectacle, La face cachée de la lune, qui reprend l'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. L'histoire un peu de tout ça est très liée à mon histoire personnelle. Quand l'album sort, moi j'ai 9 ans et j'ai un grand frère qui a une très belle chaîne Hi-Fi, ce qui est assez rare à l'époque, et un casque. Et je dirais 3 ans à peu près après la sortie de l'album, parce que ça on a oublié, mais à l'époque quand un album sortait, avant qu'on l'ait chez soi, il fallait du temps. Il n'y avait pas internet, il fallait qu'on ait l'info, il fallait le commander, et voilà. Et les disques venaient de Londres au tout départ, donc c'était long. Bref, mon grand frère me fait découvrir cet album-là, donc j'ai 12 ans, et c'est un vrai choc pour moi. C'est un vrai choc émotionnel, un vrai choc esthétique. Et je découvre un monde dans lequel j'aime me plonger. Un monde musical, mais particulier, parce que The Dark Side of the Moon, c'est le premier album dans lequel les Pink Floyd utilisent les synthétiseurs, des synthétiseurs qui viennent d'arriver, comme le Mini Moog ou le Synthia KS. Et puis, il y a ce travail sur les bruitages également. Et je suis très sensible à ça, au fait que la musique intègre toutes les dimensions du son. La voix chantée, la voix parlée, les instruments, les synthés, qui nous emmènent dans des mondes quand même assez nouveaux à l'époque. Hein. On est un peu blasé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un choc. Et puis évidemment la musique instrumentale de Pink Floyd que j'aime beaucoup aussi, je suis un grand amateur de musique pop. Et donc cet album va à la fois me donner l'envie de faire de la musique, je vais me mettre à la batterie en autodidacte, et puis à la fois me donne un goût pour le son, et ça tombe bien parce que j'ai un papa qui fait de l'électronique, un magnétophone à bande, donc je commence à m'intéresser à ce que fait mon papa. Il fait pas du son, hein, mais voilà, il a des objets qui permettent de faire du son. Et donc je commence à m'intéresser vraiment à ce monde-là. Et puis, je décide finalement, tout en ayant envie de continuer à faire de la musique, je décide de faire des études de technicien son. Et là, je commence à découvrir les techniques que les Pink Floyd ont utilisées dans leur album. À l'époque où je me forme, on est en 82, on est encore dans les techniques analogiques de Pink Floyd. Et puis, en parallèle de ça, j'ai oublié de le dire, dans le groupe dans lequel je jouais, le clavier avait un Mini Moog, un des synthés utilisés par Pink Floyd. Bref, je commence à percer un peu des secrets de cet album qui était quand même très mystérieux à la base. Je commence à découvrir certaines méthodes de travail et un jour, je regarde un reportage sur les Pink Floyd et je découvre que quand ils jouent cet album, eux utilisent des bandes playback. Ils n'arrivaient pas à refaire les bruitages sur scène, il y a beaucoup de bruitages. Et surtout, il y a certaines parties de synthétiseurs qu'ils ne retrouvaient pas, ils avaient oublié les patchs. Et donc, ils utilisaient des bandes playback. Et moi, je me dis, mais avec les connaissances que j'ai, on commence à voir arriver les techniques du numérique, je commence à me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver? Et puis, dans un premier temps, je n'y arrive pas, parce qu'il y a encore des sons qui restent mystérieux pour moi. Et puis, un jour, je rencontre Laurent Daillot, qui est un grand joueur de synthétiseurs en France. Et lui, je lui parle du projet et lui me donne les dernières réponses que j'attendais. Et donc à nous deux, on va préparer ce spectacle-là. Enfin, je suis moi porteur du projet, mais Laurent va beaucoup m'aider. Et puis à nous deux, on va essayer de percer tous les mystères du synthé, tous les sons. Ça nous prend un an de travail à peu près. Et puis après, on réunit les musiciens et pendant un mois, on répète. Chaque musicien fait son relevé pour chacune de ses parties. Et puis voilà, et en un mois, en fait, on a réussi à recréer cet album. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une dimension qui devenait aussi assez intéressante. C'est que faire les bruitages sur scène, montrer ces manipulations de studio, ça fait un spectacle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'appuyer sur des jeux de lumière, des systèmes de fumée, de grosses vidéos. On se rend compte qu'on amène une autre dimension de spectacle. Voilà, donc le spectacle, c'est devenu ça. L'idée d'emmener le spectateur avec nous dans un studio et de lui montrer comment cette musique s'est faite, comment elle est née.
Le public n'est plus habitué réellement à voir des musiciens fabriquer du son de manière technique. Et ça, c'est un spectacle qui est juste unique, on peut dire, en 2015 quand même.
Assez unique, ouais. Assez unique parce que moi, j'appelle ça de la lutherie, hein, ces synthétiseurs analogiques et même la manipulation des micros et tout. Il y a eu une espèce d'illusion avec l'arrivée de l'informatique. L'informatique, c'est un outil que j'utilise, hein, moi, hein, par ailleurs. Hein. Mais l'informatique a donné cette illusion qu'on pouvait remplacer tous ces synthés. Alors, c'est vrai que pour quelqu'un qui a une démarche musicale au sens classique, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire une succession de notes avec un son précis, stable, effectivement, il peut trouver son bonheur hein, dans des plugins, des imitations de synthés sur ordinateur. Mais nous, ce qu'on aime, c'est travailler la matière, c'est travailler le timbre. Il y a des improvisations où on ne joue absolument pas sur les notes, on est uniquement sur la matière sonore. Et ça, cette lutherie-là est irremplaçable. Quoi. C'est drôle parce que les premières rencontres de musiciens que j'ai fait pour les choisir pour le projet, je me souviens d'un musicien qui m'a dit « Et donc, toutes les parties mini-MOOC, tu les fais avec le plugin, là, le... je ne retrouve pas le terme. » Voilà, une émulation, exactement, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Et j'ai dit « Bah, évidemment que non, on avait utilisé les mini-MOOC. » Il me dit « Oh, tu sais vraiment... ça n'a aucun intérêt, hein, c'est le même son. Ben voilà, ben ce musicien, il ne fait pas partie du projet, je peux vous le dire.
On parle bien, pour les auditeurs qui nous écoutent, de machines qui sont rares sur scène, mais rares de manière générale. La première question qu'on peut se poser, c'est déjà, comment vous êtes-vous procuré toutes ces machines?
Alors, le synthétiseur mini-MOOC, moi j'en avais un en fait. Hein. C'est-à-dire que quand j'avais 14 ans, je jouais en groupe, le clavier avait un mini-MOOC, ce qui était rare à l'époque. Hein. Mais il avait un papa qui avait beaucoup d'argent et qui travaillait aux États-Unis en fait. Il lui a ramené des États-Unis. Donc le mini-MOOC, moi je l'ai toujours eu. On en a acheté un deuxième pour le projet, qu'on a mis un peu de temps à trouver, c'est vrai. Le Synthi AKS, Laurent Daillot en avait un. Donc c'est le Synthi AKS de Laurent, qui malheureusement nous a quittés, hein, qui n'est plus sur le projet. Il est parti rejoindre la face cachée de la Lune. Le VCS3, c'est celui d'Étienne Bultinguer, qui était notre sonorisateur. Des chambres d'écho, moi j'en avais une. Alors voilà, on a quand même dû acheter d'autres chambres d'écho. Il y en a beaucoup hein, sur scène, hein, il y en a 7. Les chambres d'écho à bande qui font partie du son hein, de Pink Floyd. Donc ça, il a fallu en acheter. La caisse enregistreuse aussi, d'ailleurs. La cabine Leslie, non, là, je crois que c'est sur un site de musiciens, vraiment, que j'ai trouvé la cabine Leslie. On a mis du temps, mais c'est vrai que c'est des instruments assez rares. Là, de temps en temps, je regarde un peu les prix de ces machines-là. Honnêtement, je trouve ça délirant. Hein. Alors, c'est vrai qu'on guette et qu'on se rend compte qu'il y en a un à vendre de temps en temps sur la planète, quoi. Donc, c'est effectivement rare. Là, en ce moment, il y en a un à vendre à 12 000 euros, ce qui est délirant. Hein.
Les Pink Floyd, le groupe original, sortir un album comme ça à l'époque, c'est tout de même une prouesse et ça a été un choc, vraiment une onde de choc pour le public.
Ah ouais, clairement. Clairement, c'est un travail très très chiadé sur le mix. Encore une fois, on a un peu oublié ça, mais à cette époque, quand on fait un mix, c'est avec les mains qu'on mixe, hein, c'est pas avec un ordinateur. Pour mixer cet album-là, ils sont 5 derrière la console. Hein. Tous les musiciens sont là, Alan Parsons est là. Et puis, bah, ils répètent le mixage et puis un jour, ils décident que celui qu'ils viennent de faire, c'est le bon. Et oui, c'est une prouesse. C'est de la recherche, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de chercher, ils ont pris le temps d'expérimenter, de chercher des nouveaux sons. Je pense qu'ils ont trouvé le bon ingénieur du son au bon moment. Il était très jeune, hein, Alan Parsons. Mais voilà, il est venu compléter l'équipe de façon assez idéale.
Un bonheur, j'imagine, pour vous et vos collègues de faire rêver un petit peu le public avec notamment une base phénoménale qui est cet album des Pink Floyd.
Oui, rêver, retrouver des sensations du passé puisqu'on a une partie de nos sons qui sont purement analogiques. Et puis oui, le bonheur de... Moi, j'ai un vrai goût pour le geste instrumental. Je trouve ça beau, en fait, un musicien qui joue. Donc, le bonheur d'être vraiment concentré sur la musique, de pouvoir écouter la musique, de juste regarder les musiciens qui jouent et de pas être embarrassé par tous les clichés de la pop musique et du rock avec les effets de lumière. C'est une culture, hein. Je la remets pas en cause dans sa globalité, mais je trouve ça un peu triste d'être aussi formaté dans des aspects visuels, de penser que la musique de Pink Floyd ne peut exister qu'avec des grosses vidéos, même si c'était leur démarche à eux, hein, je le reconnais. Mais moi, je trouve ça beau, un musicien qui joue, tout simplement.
Quelles sont vos prochaines dates ?
La prochaine date, c'est à Sénart, en région parisienne. C'est le 17 décembre, si je me souviens bien. Et on a un site sur lequel il y a toutes les dates. Je me souviens juste qu'au mois de mai, on va jouer 3 soirs de suite à Oullins, dans la banlieue de Lyon. Et ça va être un moment particulier pour nous parce qu'on joue 3 fois et le deuxième soir, ça sera la 100e. Donc je pense qu'on va faire la fête à Oullins.
Vous reviendrez dans la région PACA ?
Alors, il se trouve qu'il y a un partenariat avec le Théâtre du Rance, donc on revient de toute façon au mois de janvier avec un voyage au centre de l'oreille, qui est une proposition qui mêle conférences sur le fonctionnement de l'oreille et musique. On a une autre proposition qui s'appelle Polysonnerie, une proposition sous casque avec des textes érotiques mis en musique. Et tout ça n'est pas encore décidé, mais je pense que vous nous reverrez, oui.
Ce spectacle, c'est une chose à écouter, mais aussi à voir, rien que pour le show. Par ailleurs, un site internet également, vous en aviez parlé.
Alors, c'est inouï94.fr, inouïe94.free.fr.
Est-ce que vous avez pour projet de sortir une version du spectacle ?
Non, on avait imaginé faire un DVD. D'ailleurs, on devait enregistrer ici. Et on a eu un petit problème de financement. Et puis, pour tout vous dire, on n'a pas les droits. On n'a pas besoin de droits pour jouer de la musique sur scène, mais pour faire un DVD, il faut l'autorisation des Pink Floyd. Et ces gens-là sont réellement intouchables. Donc, on n'a toujours pas de réponse.
Les Pink Floyd eux-mêmes ou certains membres, vous avez eu des retours sur votre spectacle ?
Alors, ils ne sont pas venus. Hein. Nick Mason devait venir nous voir à Paris et on l'attend toujours. Donc, il n'est pas venu. Les autres, je pense, ne sont même pas au courant. Alan Parsons est au courant du projet, mais c'est pareil. Il n'est peut-être pas encore venu nous voir. On peut encore espérer qu'il vienne.